Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nadine Jasmin, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, dans les médias, on entend parler des affaires Trauss-Kahn, Weinstein, Baupin. Avec le mouvement MeToo, on parle beaucoup de harcèlement sexuel en ce moment.
Oui, c'est vrai. Le phénomène sort du bois, en fait, en quelque sorte, dans tous les domaines, la culture, la politique, les médias, et évidemment au travail, où la réalité du harcèlement sexuel commence aussi à émerger. Par exemple, une enquête de 2015 montrait que 20% de femmes actives ont déjà été confrontées à du harcèlement sexuel dans leur vie professionnelle, ce qui représente à peu près 2,5 millions de femmes concernées. Et donc c'est un phénomène d'ampleur, à la fois dans le monde du travail et aussi dans la société en général.
Et la fonction publique, est-ce que le harcèlement sexuel la concerne ?
Eh oui, bien sûr. La fonction publique, c'est un lieu de travail, et à ce titre, elle n'échappe pas au harcèlement sexuel, et plus largement, aux violences au travail. Alors, on n'a pas vraiment de chiffres précis pour quantifier ce phénomène qui est encore très tabou, mais on peut rappeler la particularité de la fonction publique, notamment territoriale, qui combine trois catégories d'acteurs. Il y a les élus politiques, il y a le personnel territorial, et puis bien sûr, il y a la population. Et donc, le harcèlement sexuel peut se produire à tous les niveaux. Par exemple, au niveau politique, dans le cabinet d'un maire, au niveau professionnel, au sein de la collectivité, soit de la part d'un supérieur, soit entre collègues, ou de la part d'agents en contact avec la population. Alors, quelques cas ont été médiatisés au sein de la police, municipale ou nationale, mais tous les secteurs d'activité, bien sûr, peuvent être concernés.
Une blague un peu lourde, un compliment sur le physique d'une collègue, c'est un harcèlement ?
Mais pour répondre à cette question, il faut regarder du côté du droit. Parce qu'il y a en France un arsenal législatif qui est tout à fait étoffé et qui permet de lutter contre différentes formes de violences, qu'elles soient physiques, morales ou sexuelles. Le droit reconnaît par exemple l'injure, la menace, la diffamation, la provocation à la haine ou à la violence fondée sur le sexe ou sexiste. Et puis plus récemment, le droit a reconnu l'outrage sexiste, le harcèlement de rue, le cyberharcèlement sexuel ou les agissements sexistes en 2018. Et la loi, bien sûr, reconnaît également depuis longtemps différentes formes de violences sexuelles, allant jusqu'au viol, classé comme crime et non pas comme délit.
Et le harcèlement sexuel proprement dit, comment le définit la loi ?
Il n'y a pas une seule loi, mais il y a trois sources du droit concernant le harcèlement sexuel. Il y a le code pénal, tout d'abord, il y a le code du travail, et puis spécifiquement, il y a la loi Le Port portant droits et obligations des fonctionnaires. Et la loi distingue deux cas de figure de harcèlement sexuel. Il y a celui qui repose sur la répétition d'actes de harcèlement, et il y a celui qui résulte d'un seul acte. Dans le premier cas, c'est-à-dire la répétition, je vais citer la loi, il s'agit de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ça, c'est donc le premier cas de harcèlement sexuel, celui qui est fondé sur la répétition. Dans le second cas, je cite toujours la loi, il s'agit de toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Alors je vais revenir un petit peu sur chacune de ces définitions pour bien les détailler.
Ouais, c'est bien.
La première définition du harcèlement repose sur trois éléments constitutifs. Il y a l'imposition, il y a la répétition et il y a la connotation. Que veut dire l'imposition ? C'est l'absence de consentement de la victime qui subit les faits. La répétition implique que les faits aient été commis au moins deux fois, peu importe l'intervalle entre les faits, ça peut être rapproché ou plus éloigné. Et la connotation sexuelle suffit à caractériser des actes ou des propos délictueux, même s'ils ne présentent pas un caractère explicitement et directement sexuel. Et pour être punissable, donc, ces comportements, nous dit la loi, doivent soit porter atteinte à la dignité de la victime, parce qu'ils ont un caractère dégradant ou humiliant, soit créer une situation qu'ils soient intimidantes, hostiles ou offensantes. Et donc, tout ça regroupe des propos ou des comportements qui peuvent être sexistes, grivois, obscènes. Et dans le second cas de figure, c'est-à-dire quand on parle d'une situation qui serait intimidante ou offensante, dans ce cas, le comportement délictueux a pour conséquence de rendre insupportables les conditions de vie ou les conditions de travail de la victime. Un exemple canonique serait celui d'une personne qui importune quotidiennement son ou sa collègue ou subordonnée en lui adressant, par exemple, sans cesse des messages ou des remarques à connotation sexuelle, alors que la personne lui a demandé de cesser ce comportement.
Effectivement. Et le deuxième type de harcèlement, qu'est-ce qu'il différencie du premier ?
Le deuxième type de harcèlement, je trouve qu'il est très important parce que quand on pense au harcèlement, on pense à la répétition. Or là, justement, dans la loi, c'est le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Et donc cette notion de pression grave recouvre des cas dans lesquels une personne tente d'imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie d'un avantage substantiel, non négligeable, par exemple l'obtention d'un emploi, ou au contraire pour éviter une situation qui serait dommageable, nuisible pour la personne, comme un licenciement ou une mutation non désirée. Et donc ce type de harcèlement sexuel, même s'il porte le nom de harcèlement, n'a pas besoin d'être répété. Par exemple, il peut se manifester à l'occasion d'un seul entretien d'embauche. Mais c'est une pression grave qui a été à ce moment-là subie par la personne victime, et la loi va bien la reconnaître comme, la caractériser comme du harcèlement également. Et puis, il y a deux autres éléments qui caractérisent ce harcèlement. D'abord, il y a la nature de l'acte sexuel recherché. Ce n'est pas forcément une relation sexuelle en soi, ça pourrait être des contacts physiques pour, je ne sais pas, assouvir un fantasme d'ordre sexuel, pour accentuer, pour provoquer le désir sexuel. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un acte sexuel nécessairement commis. Et puis, le dernier élément qui caractérise ce type de harcèlement, c'est qu'il peut être réel ou apparent. Ça veut dire que la loi sanctionne des personnes qui agissent sans forcément viser à obtenir l'acte sexuel, mais qui peuvent agir de la sorte avec leur victime par jeu, dans le but de l'humilier, ou par exemple pour obtenir sa démission.
À vous écouter, les limites ne sont pas toujours très claires entre un simple rapport de séduction et le harcèlement sexuel. Où se situe la frontière ?
Je pense que ce qui fait vraiment la frontière entre du harcèlement et une autre situation, c'est la notion de consentement, qui me paraît centrale. C'est vraiment le pilier de la définition du harcèlement sexuel. Dans un rapport de séduction librement consenti entre deux personnes, il y a une forme d'égalité, de réciprocité, un échange véritable, indépendamment du lien hiérarchique, bien entendu. La relation est égalitaire dans le respect des limites de la personne. Ce n'est pas un rapport de domination, ce n'est pas un rapport de dévalorisation. Mais dans le harcèlement, au contraire, il n'y a pas cet échange véritable. La relation est à sens unique, c'est une imposition, c'est un rapport de force implicite ou direct. Et dès lors qu'une femme est gênée par des remarques, je dis femme parce que c'est le cas de figure le plus fréquent, donc si elle est gênée par des remarques ou des blagues sexistes, des gestes déplacés, des compliments limites sur son physique, c'est qu'il y a un problème. Et sans généraliser, je dirais qu'à titre personnel en tant que femme, évidemment, je vais bien faire la différence spontanément entre un compliment qui peut être agréable, qui peut être courtois, qui n'est pas intrusif, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, et au contraire, une remarque déplacée, un commentaire plus limite ou une sollicitation importune.
Mais justement, tout le monde n'a pas la même culture, n'a pas le même humour, les mêmes limites.
Oui, c'est vrai. Chaque personne a des limites différentes. Et le respect de ses limites, c'est vraiment la condition minimale, mais pas suffisante, attention, pour ne pas tomber dans le harcèlement. Mais il ne faudrait pas inverser la situation. Il ne faut pas retourner la culpabilité sur la personne victime. Ce n'est pas la victime qui a un problème de limite qui serait trop basse. C'est le harceleur qui instaure, qui impose un rapport unilatéral de domination. Et donc la loi est vraiment claire sur le sujet. Le harcèlement porte atteinte à la dignité de la personne par des actes, des propos dégradant, humiliant, créant cette situation dont on a déjà parlé, intimidante, hostile ou offensante. Et donc le harcèlement est agressif à quelque chose de dominateur, même s'il se cache sous des apparences humoristiques, sous le masque de la séduction, par exemple des compliments sur le physique de la personne, ou la reconnaissance de ses qualités toutes féminines, mais au détriment de ses compétences professionnelles. Alors, bien sûr, ce qui est difficile au travail particulièrement, c'est qu'il y a un lien de subordination et il y a de toute façon des relations interpersonnelles qui régissent le collectif de travail. Et le harcèlement sexuel, dans ces cas-là, peut devenir parfois un peu subtil et même insidieux. Quand le sexisme est hostile, qu'il est vraiment machiste, misogyne, il est facile à repérer, on peut le désigner rapidement. Mais là où ça devient un petit peu plus délicat, c'est quand il est masqué, subtil. Par exemple, il peut se cacher sous un ton très paternaliste, sous le masque de compliments flatteurs, sous une familiarité un petit peu limite, par exemple un tutoiement déplacé, une interpellation un petit peu familière, utiliser un prénom plutôt que le nom de famille, etc. Ou en utilisant l'humour. Et le problème, c'est que face à ce type de comportement qui est ambigu, hein, qui est vraiment, vraiment limite, les femmes craignent vite d'être étiquetées à problème, quand on leur envoie qu'elles sont coincées, qu'elles n'ont pas le sens de l'humour, et les harceleurs retournent la culpabilité contre leurs victimes. Bah, tu comprends rien, c'est de l'humour, t'es susceptible, on ne peut plus rien dire, etc. Et la victime se sent complètement coincée.
À vous entendre, effectivement. Mais est-ce vraiment si grave, une blague lourde ou un compliment un peu déplacé?
Disons que ce qui est grave, c'est la relation, c'est le climat de travail qui s'instaure. Pour la victime, évidemment, en premier lieu, mais aussi pour le collectif de travail et pour la collectivité. Le risque, c'est de banaliser et même de dénier une réalité qui fait des dégâts, réellement, et qui peut avoir des conséquences dramatiques sur les personnes et sur l'environnement de travail. Parce qu'être victime de harcèlement sexuel, c'est subir, et parfois quotidiennement, et parfois 10 fois par jour, des atteintes qui peuvent être graves en termes de santé physique, morale, qui peuvent mener à la dépression, voire au suicide. Parce qu'une personne qui est victime de harcèlement sexuel est dans un mal-être au travail qui va la mener à la démotivation, au désengagement, à l'absentéisme, aux arrêts maladie, etc. Et non seulement pour cette personne, les conséquences sont dramatiques sur le plan physique et psychologique, mais le risque est aussi important pour le service. C'est-à-dire que la victime est en retrait, elle se désengage de son travail, les relations de travail se dégradent, la qualité au travail se dégrade aussi, et pour l'administration, c'est également une situation risquée. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeuse, la collectivité a un devoir évidemment d'exemplarité dans l'exercice de sa mission d'intérêt général, et bien entendu de respect de la loi. Et donc une collectivité qui ne respecte pas la loi et ses obligations de protection des salariés, se met hors la loi. Et c'est aussi une perte en termes d'efficacité, de bonne gestion des compétences, de bon fonctionnement du service, et comme je vous le disais, finalement tout le monde a à y perdre. Voilà, le risque pour la collectivité, c'est dans le pire des cas, de se mettre hors la loi, d'encourir un procès, avec tout ce qui s'ensuit en termes de médiatisation d'une image négative. Et vraiment, tout le monde y perd finalement.
Alors bon, y perdre, mais ça veut dire que la collectivité doit être au courant, avoir des remontées qu'il y a un harcèlement. Ça, c'est un premier point qui resterait à aborder plus tard un jour. Donc, vous avez parlé de procès. Quels sont les risques encourus en cas de harcèlement sexuel?
Eh bien, la loi reconnaît que c'est quand même vraiment un délit qui doit être sanctionné fortement. Et donc, le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ça, c'est le cas « entre guillemets standard ». Porté à 3 ans et 45 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes. Et justement, dans les circonstances aggravantes, il y a le fait pour une personne d'abuser de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Et donc, bien entendu, pour un agent ou une agente de la fonction publique dans l'exercice de ses missions, elle est concernée par ces circonstances aggravantes. Alors, ce que vous disiez est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il faut faire reconnaître le harcèlement sexuel, et là, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Il faut amener des éléments quand même qui laissent supposer qu'il y a eu réellement un cas de harcèlement sexuel, et ensuite, la personne harceleuse doit pouvoir démontrer qu'elle n'a pas harcelé. Alors oui, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, mais il y a des cas, bien sûr, qui ont été médiatisés, des procès qui ont débouché sur des condamnations. Je pense à des exemples récents, la cour d'appel de Metz, par exemple, a récemment condamné un policier à 1 an de prison avec sursis, mise à l'épreuve, obligation de soins et obligation d'indemniser sa victime avec une interdiction d'exercer le métier de policier pour une durée de 3 ans. Donc là, on voit vraiment que le cas de harcèlement sexuel a été reconnu, caractérisé et que les sanctions ont été tout à fait fortes. Ça, c'est pour le plan judiciaire. Mais évidemment, il y a des sanctions disciplinaires internes à la collectivité qui vont également être prises à l'encontre de l'auteur de violence ou de harcèlement, indépendamment des condamnations pénales ou des conditions civiles. Et donc, du côté de la collectivité, sa responsabilité est engagée de deux manières. D'une part, elle est dans l'obligation de faire cesser la violence ou le harcèlement dès qu'elle a connaissance des faits. Ça, c'est vraiment sa responsabilité. Elle est tenue à une obligation non seulement de moyens, mais aussi de résultats. Et d'autre part, elle est tenue de réparer le préjudice, qu'il soit matériel ou moral, subi par l'agent ou l'agente. Et donc, comme je le disais, il y a vraiment cette obligation de résultat qui s'applique de manière générale à la sécurité physique et psychique des agents publics. Et donc, on peut engager la responsabilité de l'administration ou de la collectivité pour faute, si jamais cette faute est à l'origine du préjudice subi par l'agent ou l'agente.
Concrètement, comment agir dans une situation de harcèlement? Quelle est la procédure à suivre?
Alors, il y a effectivement une procédure qu'on peut suivre et qui concerne toutes les catégories d'acteurs dans le cas du harcèlement et plus largement d'ailleurs de toute violence. La victime peut agir sur plusieurs plans. Alors le premier stade, bien sûr, c'est de saisir sa hiérarchie, l'informer des faits de manière motivée et lui demander, si nécessaire, la protection fonctionnelle. Et cette protection fonctionnelle, qui fait partie du statut des fonctionnaires, comprend une obligation de prévention, d'assistance juridique et de réparation. Il peut y avoir aussi l'enclenchement d'une procédure d'alerte, activée en cas de danger grave ou imminent pour la vie ou la santé de l'agent. En interne, la victime peut aussi mobiliser tous les acteurs de la prévention. Alors on vient de parler de l'encadrement, il y a bien sûr les services des ressources humaines pour faire cesser le harcèlement, la médecine de prévention pour faire constater médicalement les faits et ses conséquences en termes psychologiques. Il y a également les instances de représentation du personnel, l'inspection du travail, vers lesquelles on peut se tourner, puisqu'elles ont une mission toutes les deux de santé et de sécurité au travail. Et puis, le tribunal administratif est aussi un recours pour obtenir protection et réparation. Donc là, tout ce que j'évoque, c'est un plan en fait interne à l'administration. En externe, il y a d'autres possibilités. La victime peut saisir le défenseur des droits, mais ça, il faut qu'il y ait un cas de discrimination. Attention, le défenseur des droits ne va pas traiter en soi le harcèlement sexuel. Mais s'il y a une situation de discrimination, à ce moment-là, on pourra le saisir.
Il va aider à monter le dossier.
Si il reconnaît une situation de discrimination avérée, le défenseur des droits est intéressant parce qu'il a un pouvoir d'enquête qui est vraiment élargi. C'est-à-dire que quand il est saisi d'une situation, il a le pouvoir d'enquêter au sein de l'administration, de se faire communiquer un certain nombre de documents et de données. Là s'arrête son pouvoir, c'est-à-dire qu'ensuite il va émettre un avis motivé, une préconisation, une semonce en fait à l'administration, mais voilà, il n'a pas le pouvoir juridique qui va au-delà. Si on veut aller vraiment au-delà, eh bien là, on va aller au pénal. Donc, il existe le défenseur des droits, mais ça, il faut qu'il y ait de la discrimination. Et si je reviens au harcèlement, il y a des associations d'aide aux victimes, en particulier la VFT, qui est l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, qui peut engager des poursuites judiciaires, porter plainte contre l'agresseur, et donc la victime peut s'adresser à la police, à la gendarmerie, ou directement au procureur, avec ou sans constitution de partie civile. Donc on voit vraiment qu'il y a un double volet, à la fois interne à la collectivité, pour traiter, faire cesser, prévenir et réparer la situation, et à l'externe, au pénal. Et du côté de la collectivité, je le disais tout à l'heure, le statut général des fonctionnaires rappelle cette obligation d'administration de protéger les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont victimes de harcèlement ou de violence. Et puis, qui dit harcèlement, on le disait tout à l'heure, dit aussi le fait qu'il va falloir prouver cette situation. Et donc, du côté des collègues ou des témoins, les agents publics ont le devoir de signaler au procureur de la République tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. Ce qui veut dire qu'ils sont tenus d'agir pour protéger la victime dès lors qu'ils assistent à ces situations de harcèlement. Et à ce titre, les témoins bénéficient de la même protection que la victime. Ils ne peuvent pas être discriminés, ils ne peuvent pas être sanctionnés pour avoir témoigné de ces agissements délictueux ou pour les avoir relatés. Donc, vous voyez que, au final, je dirais que le droit est bien équipé pour faire face aux situations de harcèlement et de violence, mais que le travail maintenant de la fonction publique, c'est de s'emparer de ces outils, de s'emparer de la démarche, des procédures qui existent, et vraiment d'exercer pleinement ses obligations de prévention et de protection. On ne peut pas tolérer qu'une femme sur 4 ou sur 5 en moyenne subisse des violences sexuelles sous une forme ou sous une autre sur son lieu de travail. Et l'enjeu, je le dirais pour terminer, se mesure en termes de bien-être, de santé au travail, d'efficacité, d'exemplarité et bien sûr d'égalité femmes-hommes.
Nadine Jasmin, merci infiniment pour cet éclairage.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous voici maintenant outillés sur ces aspects du sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes. À très bientôt pour un quatrième épisode sur le sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.